Chapitre 11. Le lendemain, Colette revint rue Oudinot après avoir passé une assez bonne nuit à son hôtel. La veille, sur la fin de l'après-midi, Jacques avait quitté sa famille. Sa mère lui avait préparé du linge, des vêtements chauds, mais M. Lézardouin s'était opposé à ce qu'elle les portât à son fils. M. et Mme Lézardouin n'avaient pas assisté au départ de ce dernier. Ils n'avaient remis aucune de leurs occupations habituelles. Pourtant, ils avaient prié le valet de chambre de les prévenir lorsque M. Jacques sortirait. Ils étaient en train de prendre le thé lorsque le domestique était venu les avertir. Ils s'étaient regardés sans prononcer une parole. Brusquement, il leur était apparu qu'ils avaient peut-être été trop durs. Ils avaient vu en imagination Jacques s'en allant se constituer prisonnier, les mains vides, seul, sans soutien, sans encouragement, sans réconfort. Madame Lézardouin avait voulu se lever, mais son mari l'avait retenue. Puis il avait murmuré ces quelques mots « La guerre a tué Paul », laissant entendre par là qu'elle avait tué également Jacques. Monsieur Lézardouin reçut Colette d'une manière toute différente. Tant que son fils avait été chez lui, il avait exagéré son intransigeance de peur que s'il laissait percer la moindre pitié, la moindre faiblesse, Jacques ne cherchât à se dérober au châtiment qu'il méritait. Maintenant que la justice allait suivre son cours, sans que rien n'eût été fait pour l'influencer, M. Lézardouin était soulagé. La nuit, il avait réfléchi. Il lui était apparu que puisque Jacques avait fait son devoir, il devait faire le sien. Son fils lui avait demandé de ne pas abandonner Colette à elle-même. Il lui avait raconté l'histoire de cette jeune femme. Il lui avait dit que pour lui, Jacques, elle avait rompu avec tous ceux qui eussent pu lui venir en aide aujourd'hui. Aussi estimait-il à présent qu'il avait un devoir à remplir vis-à-vis de cette jeune femme. « J'espère, dit-il, que vous allez être courageuse. Jacques ne pouvait pas agir autrement qu'il a fait. » « Je le sais, répondit Colette, qui, maintenant que ce qu'elle redoutait le plus était arrivé, songeait déjà à l'avenir. J'espère que ces juges tiendront compte de l'extrême jeunesse qu'avait mon fils lorsqu'il a commis un crime et des circonstances qui ont précédé celui-ci. Mais de cela, nous n'avons pas le droit de préjuger. Le plus sage aujourd'hui est que vous songiez à organiser votre vie. Il faut que nous acceptions toutes les éventualités. Nous ne reverrons peut-être jamais Jacques, et même si nous le revoyons, il est à prévoir que nous ne le reconnaîtrons plus, que des années de cellule auront fait de lui un autre homme. » Colette porta son mouchoir à ses yeux. « Pourtant, dit-elle en pleurant, Jacques n'était pas responsable. Il a eu une blessure tellement grave à la tête. Vous le savez, n'est-ce pas? Je le dirai au juré. » M. Lézardouin feignit de ne pas entendre ces paroles, mais quelques instants plus tard, il continua ainsi. « Je vous demanderai, Colette. » C'était la première fois qu'il appelait ainsi, et, comme toujours, quand c'est à cause d'un tiers qu'on donne cette marque d'amitié, il y eut quelque chose de faux dans le ton de sa voix. De ne rien dire, ni au juré, ni à personne. Qu'on sache que mon fils a été trépané, qu'il a agi criminellement pour une raison louable, je ne m'y oppose pas. Mais qu'on essaie, grâce à ces raisons, d'obtenir l'indulgence des juges, cela je ne le veux pas. Jacques doit reconnaître qu'il a commis un homicide. Il doit être le premier à dire qu'il n'a pas d'excuse. Mais ne parlons plus de lui. Il n'est plus de ce monde. Parlons de vous, Colette. Je crois que votre père habite Paris. Êtes-vous donc en si mauvais termes avec lui que vous ne puissiez aller habiter chez lui ? Colette avait déjà songé plusieurs fois à cette solution, mais elle ne s'y était pas arrêtée, parce qu'elle avait eu confusément le sentiment ces derniers jours que si elle n'avait pas l'habileté de paraître n'avoir d'autre appui au monde que celui que M. et Mme Lézardouin pourraient lui donner, elle perdrait Jacques définitivement. Elle avait compris que la seule façon qu'elle avait de le revoir était de maintenir les liens les plus étroits qu'il était possible, quelque humiliant que cela fût pour elle, avec les parents, et que, pour y réussir, il lui fallait profiter tout de suite de cette espèce de dette que ceux-ci croyaient avoir vis-à-vis d'elle et dont, visiblement, il se libérerait très vite. « Je suis en très mauvais termes avec mon père, » répondit Colette, non sans éprouver une certaine gêne d'être obligée de faire un tel aveu à un autre père. après avoir tenté par tous les moyens de se défaire de ces liens dont Colette s'efforçait de l'entourer, M. Lézardouin décida que pour quelques jours, en attendant qu'on trouvât une autre solution, Colette resterait à l'hôtel et que lui, M. Lézardouin, acquitterait la note. Nous avons dit que, aussitôt après le crime de son fils, M. Lézardouin avait rompu avec sa famille, ses amis, qu'il s'était abstenu de toute activité, comme si lui-même avait commis cet acte impardonnable. Mais, ainsi qu'il arrive souvent dans de telles circonstances, il s'était ensuite créé, petit à petit, de nouvelles amitiés chez des gens auxquels jadis il n'eût pas daigné accorder la plus petite attention. Il avait de cette façon groupé autour de lui un milieu des plus bizarres pour lequel il faisait figure de martyr, de victime du destin, où on lui donnait quand même du respect, eu égard à ce qu'il avait été, où tous étaient flattés d'être traités, grâce aux erreurs d'un fils, comme ils n'eussent pu l'être autrement. Grâce à eux, M. et Mme Lézardouin avaient l'illusion de la retraite sans en avoir la monotonie. Quand il devenait impossible, dans une conversation, de ne pas parler de Jacques, ces petites gens se montraient d'une discrétion qui touchait beaucoup M. Lézardouin. Parmi eux se trouvait un chapelier du boulevard Saint-Germain, M. Marly, que les malheurs de M. Lézardouin avaient sincèrement ému. Mais, au bout de très peu de temps, après n'avoir été au début que flatté comme tout le monde de mériter l'amitié d'un homme de cette qualité, il s'était persuadé peu à peu que celle-ci ne tirait pas son origine d'un drame de famille, mais d'une sympathie réciproque qui, sans ce drame, eût porté les mêmes fruits. Depuis, il s'efforçait, avec beaucoup de prudence et de délicatesse d'ailleurs, de convaincre M. Lézardouin que le crime dont son fils était rendu coupable, premièrement, ne pouvait lui être imputable, deuxièmement, n'était pas aussi grave qu'il paraissait quand on examinait les événements qui l'avaient précédé, cela sur un ton bonhomme qui semblait celui du bon sens, mais qui était surtout celui d'une amitié qui s'impose. M. Lézardouin aimait beaucoup cet homme, car s'il ne croyait pas les bonnes paroles de celui-ci, il aimait à les entendre. Or, il y avait 2 ans, ce M. Marly avait marié sa fille avec un ingénieur, André Simonet, dont la conduite au front avait été très brillante. Auprès du jeune ménage, M. Lézardouin avait tout de suite joui d'un très grand prestige. On lui témoignait un profond respect. On racontait autour de lui qu'il était vraiment malheureux de voir un homme de cette valeur, ayant un sens de l'honneur, de la justice aussi élevé, se considérait comme le dernier des hommes parce que la fatalité avait voulu qu'un de ses fils reçût une balle dans la tête et perdît la raison. Il y avait 1 an, ce jeune ménage avait eu un fils. M. Lézardouin, sollicité d'en devenir le parrain, s'y était refusé, se jugeant indigne. Ce scrupule avait encore fait monter l'estime et l'admiration de tous. Il y avait 4 jours que Colette était rentrée à Paris, lorsque M. Lézardouin eut la pensée qu'après tout, Colette pourrait aller habiter chez ce jeune ménage, en échange de laquelle hospitalité elle s'occuperait de l'enfant. Il alla voir M. Marly. Tous deux interrogèrent alors les Simonets, qui acceptèrent avec joie cette combinaison. Le lendemain, M. Lézardouin et Colette quittaient ensemble la rue Oudinot. Peu après, le taxi s'arrêta avenue de la Motte-Piquet, devant un immeuble moderne, au rez-de-chaussée duquel il y avait un vaste magasin d'alimentation ayant des airs de coopérative. M. Lézardouin régla le chauffeur, non sans avoir prié Colette de s'assurer que le prix donné par le chauffeur était bien celui marqué par le compteur. À cet endroit, le trottoir était très large et planté de maigres arbustes. M. Lézardouin le traversa lentement. « Vous semblez préoccupé, » dit Colette. « Oui, je le suis. » C'était au 6e étage qu'habitaient les Simonets. Ils accueillirent les visiteurs avec une amabilité extraordinaire. Yolande Simonet conduisit tout de suite Colette à sa chambre qui était déjà prête. On voulut que M. Lézardouin la vît. Peu après, il pénétrait à son tour dans cette chambre, complimenta Mme Simonet. À aucun moment, il ne se départit de son attitude de père qui confie sa fille à des directeurs de pension, bien qu'il éprouvât une certaine gêne à recommander si chaudement une jeune femme dont il blâmait au fond de son cœur la conduite. Il y avait évidemment de la grandeur d'âme dans cette attitude. Mais il y avait surtout le désir que rien ne vînt ternir le prestige qu'il savait avoir aux yeux des Simonet, la crainte que Colette, dans son ignorance de ses affinités secrètes, ne laissa paraître de la surprise devant des rapports amicaux entre gens tellement différents. Mais cette crainte était bien vaine, car Colette eût été incapable de reconnaître ses hôtes après une absence de quelques minutes. Elle ne voyait rien. Depuis 2 jours déjà, son esprit était concentré sur Jacques. Où était-il? Que faisait-il? Pourquoi ne lui avait-il même pas écrit? Elle comprit qu'il traversait un des moments les plus tragiques de sa vie, mais pour quelle raison en excluait-il celle qui, pendant des années, avait été sa compagne de tous les jours? À certains moments, elle se demandait si elle n'était pas la victime d'une sinistre comédie, si Jacques n'avait pas décidé de longue date de la quitter, si monsieur et madame les Ardouin n'étaient pas ses complices, si, en définitive, on ne cherchait pas à se débarrasser d'elle précautionneusement, sans éveiller son attention. Il n'était pas possible qu'un père pût être aussi dur avec son fils que l'avait été monsieur les Ardouin avec Jacques. Il n'était pas vraisemblable qu'on se désintéressât à ce point du sort de son enfant, ni que, dans une circonstance aussi grave, on ne se souciât même pas de savoir ce qu'il était devenu. Puis, à force de réfléchir, Colette finissait par accepter ces bizarreries. Elle ne devait pas être si exceptionnelle qu'elle croyait. C'était en tenant compte qu'elle devait songer à l'avenir. Elle pensait alors à Jacques. Certainement, on ne le condamnerait pas, ou si on le condamnait, on lui accorderait le sursis. Il serait donc libre après le procès. Ils pourraient alors tous deux se marier, mener une existence paisible à la campagne. Mais pourquoi les parents n'envisageaient-ils pas cette fin? N'était-ce pas parce que celle-ci leur était désagréable? Leur appel à la rigueur n'était-il pas un moyen de le décourager? Ne cherchaient-ils pas, en grossissant la faute de Jacques, à détourner Colette de celui-ci? En la laissant chez les Simonet, M. Les Ardouin avait dit à Colette qu'il lui écrirait dès qu'il saurait quelque chose de nouveau. Au bout de 8 jours, n'ayant rien reçu, Colette ne put s'empêcher de retourner rue Oudinot. « Mais enfin, comment se fait-il, demanda-t-elle, que Jacques ne m'ait même pas écrit un mot, qu'il me laisse dans l'ignorance de tout ?»« Vous devez comprendre, Colette, que dans un remords aussi profond que celui de mon fils, il ne peut y avoir de place pour les sentiments. Ne vous froissez pas, mais il faut que je vous dise, puisque vous ne comprenez pas de vous-même, que vous représentez aux yeux de Jacques tout ce qu'il y a de douceur et d'agrément dans la vie, et que, dans ces conditions, au moment où il s'agit de son salut, vous ne pouvez plus prétendre jouer le rôle que vous jouiez. Nous-mêmes, ses parents, nous ne sommes guère plus favorisés que vous. » En parlant, M. Les Ardouin avait branlé la tête sans interruption, ce qui ne lui arrivait jamais, sans doute pour prévenir par ce signe de vieillesse toute repartie dangereuse. Ce ne fut qu'à l'heure du dîner que Colette rentra avenue de la Motte-Piquet. Les Simonet ne pouvaient être pourtant plus aimables, plus prévenants, plus cordiaux même qu'ils étaient. Mais il arrivait peut-être à Colette ce qui arrivait à Jacques. Dans sa détresse, elle n'avait que faire d'une bonté si visiblement impuissante. Elle dîna rapidement, s'enferma aussitôt après dans sa chambre. Cette visite aux parents de Jacques l'avait complètement abattue. Comme elle avait eu raison, à Genève, puis à Nice, de s'opposer au retour de Jacques dans sa famille. Ce qui arrivait à présent, elle l'avait exactement prévu. Elle ôta les coussins dont on avait empli un fauteuil à son intention et s'assit. Que signifiait son séjour dans cet appartement coquet, peint de frais, où rien de ce qui peut évoquer la joie de vivre n'avait été, chez ce jeune ménage, si avide de santé et de grand air? Cette situation était ridicule. Ce fut ce soir-là que l'idée de retourner chez son père lui vint pour la première fois. Elle hésita pourtant plusieurs jours. Quoiqu'elle n'attendît plus rien de ce contact avec M. Les Ardouin, dans lequel elle avait mis au début tant d'espoir, avec M. Les Ardouin et non avec Madame, car celle-ci était invisible depuis que Colette était à Paris, elle n'osait encore le rompre. Et ce serait le rompre certainement que de quitter ce brave ménage Simonet, c'est-à-dire de se passer avec tant de désinvolture du grand service rendu par M. Lézardouin. Quelques jours plus tard, elle ne put supporter davantage cette hospitalité.